Entrer dans un cinéma, c'est toujours une aventure.
Je crois que c'est une des formes de spectacle que j'aime le plus.
Vous écoutez Vive le cinéma.
On pourrait dire vivre le cinéma.
Vive le cinéma. Le cinéma.
J'aime cette idée de se glisser furtivement dans une salle. J'adore cette espèce de descente au noir, ce moment comme ça, et puis qui s'ouvre sur un film.
J'ai souvent des images de films qui me reviennent.
Bonjour et bienvenue sur La Ligre pour Vive le cinéma, chaque lundi à 11h, de 11h à midi, et pour ma part, pour l'extension de Vive le cinéma que j'ai appelée Beau temps mais orageux, animée par moi-même, Vincent Poli. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, dès que j'ai su que je pourrais animer cette émission, quelque chose que j'ai repéré, dont je voulais parler, donc ça fait vraiment 3 mois que j'attends ça. Il s'agit du film de Rabah Mirzaimesh, Terminal Sud, qui sort ce mercredi 20, pour être exact. Alors, Rabah Mirzaimesh n'est pas avec nous maintenant, puisqu'il est en train de présenter son film dans différentes villes de France. Je crois qu'à l'heure actuelle, il est dans le train. Mais je l'ai rencontré jeudi soir. Nous avons réalisé un entretien, et ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est cet entretien que nous avons monté avec des musiques proposées par Rabah, des musiques de ses films, principalement. Et juste avant de lancer cet entretien, qui dure une cinquantaine de minutes, peut-être vous rappeler un peu qui est Rabah Mirzaimesh. C'est, en tout cas pour moi, un des cinéastes français les plus importants qui soient. J'ai découvert son cinéma, je pense, à la fin des années 2000, donc pas au moment de la sortie de ses films, peut-être en DVD, je ne sais plus, peut-être une rétrospective. Et c'est quelqu'un que je suis depuis, j'ai vu ses 6 films, et à chaque fois, c'est vraiment une sorte de confiance redonnée au cinéma de fiction, au cinéma politique aussi. Rabah Mirzaimesh fait son premier film en 2002, Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe ? C'est un film qu'on pourrait dire autoproduit. Rabah n'a pas fait d'école de cinéma, il s'est lancé comme ça dans le cinéma, avec les gens de son quartier, en jouant le rôle principal, et c'est un film qui, bien heureusement, a été repéré par les festivals et célébré en festival. Et pour ceux qui écoutent mon émission depuis les 3 mois, peut-être que vous avez entendu que je donnais la parole à des gens qui organisent des festivals. Donc voilà, c'est un rôle, les festivals, c'est quelque chose qu'on peut réformer, qu'on peut critiquer, mais c'est aussi quelque chose d'important, qui a un rôle de défricheur, et qui a le rôle d'aller contre, disons, le cinéma commercial. Donc Rabah a pu bénéficier de cette exposition, et depuis 2002, c'est en tout 6 longs métrages. Alors je vais juste les rappeler, parce que peut-être que vous les avez vus. Donc Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe en 2002, Blade Number One en 2006, Dernier Maquis en 2008, Les Chants de Mandrin en 2012, Histoire de Judas en 2015, et enfin, dans 2 jours, Terminal Sud en 2019. Et Terminal Sud est le premier film où Rabah n'apparaît pas, puisqu'il se mettait souvent devant la caméra et souvent dans des rôles assez, vous verrez, ambigus et compliqués, on en parle dans l'entretien. Et là, c'est avec Ramzi Bedia, donc Ramzi du duo Eric et Ramzi, duo comique très connu, et vous verrez Ramzi sous un jour très sombre cette fois. Donc je vais pas continuer plus longtemps, car l'entretien est assez long. Vous entendrez donc des musiques de ces films ou qui ont inspiré ces films tout au long de l'entretien. Je mettrai toutes les références sur la page internet de Aligre dans la partie podcast. Là, je peux pas détailler, il y en a vraiment beaucoup, elles sont toutes superbes. Et voilà, on se retrouve à la fin et c'est parti.
Rabat, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir chez toi, si je puis dire, à Sarazinc, qui est ta boîte de production.
Ouais, et ça fait 20 ans qu'on a ouvert la boîte. On a débuté donc en 99, et 20 ans après, il y a Terminal Sud.
Vous êtes encore là?
On est présent.
On va principalement parler de Terminal Sud, ton nouveau film qui sort mercredi prochain. Moi, ce que j'aime bien faire, notamment parce que Terminal Sud, c'est un film avec beaucoup, disons, d'ambiguïté, j'aime bien prendre le synopsis officiel Allociné, d'en partir et de voir à quel point ça crée déjà du manque, des zones de flou. Alors, je lis. Dans un pays plongé dans un climat d'insécurité et de conflits armés, un médecin tente malgré tout d'accomplir son devoir au sein d'un centre hospitalier. Jusqu'au jour où son destin bascule, trois petits points. Alors déjà, un pays, quel est ce pays? Ça, c'est un peu la première question que pose le film. Le film commence sur une route de montagne. Tout le monde parle arabe, mais tout le monde parle aussi français. On ne sait pas trop où on est. Dans le sud de la France, au Maghreb, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
C'est un pays qui est délibérément pas nommé, tout simplement pour élargir un sujet qui est celui des dérives autoritaires qui sont répandues un peu partout dans le monde. Mais au départ, on s'inspire de la dessinée noire algérienne des années 90. À l'époque, j'étais étudiant et je me suis retrouvé très, très en colère et puis ne sachant vraiment pas quoi faire, complètement impuissant devant cette confiscation du processus démocratique et devant l'horreur qui a été commise ensuite, de partout, dans tous les sens.
Moi, pour te dire, moi qui ai presque 30 ans, mais pas encore, la décennie noire, c'est pas quelque chose qui a marqué en fait mon enfance en tant que j'ai grandi en France, et j'étais un peu trop jeune, je pense. Et c'est pas ce qui m'a sauté aux yeux en voyant le film, et ensuite en parlant avec les amis, les collègues, c'est vrai que ça paraissait être une évidence. Et moi j'étais encore plus délocalisé. J'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Pour moi c'était extrêmement contemporain en fait.
C'est parce qu'on a tourné, on a tourné à Nîmes, on a tourné en France, c'est un film de France. On a tourné à Nîmes, on a tourné dans la région d'Istres, et enfin dans la ville la plus parfumée de France, Grasse. Et en s'inspirant simplement donc de l'horreur absolue qui a régné pendant des dizaines d'années en Algérie, et en tournant en France, on a réussi à créer un espace, inventer un pays dans lequel tous les États autoritaires peuvent se retrouver.
Et vous aviez le projet de tourner en France dès le début ou...
Ça s'est fait au fur et à mesure. Au départ, quand on écrit les scénarios... aucun pays n'est nommé, même si on vise spécifiquement l'Algérie. Et puis, il y a eu les événements qu'il y a eu au Maroc, à ce moment-là, le mouvement Rifa, le Irak, et où il y a eu des centaines de prisonniers politiques et des princes polidors arrêtés et certainement torturés. Donc ça a vraiment percuté notre écriture et on s'est senti vraiment plongé dans le présent. Et j'en profite pour faire une spéciale dédicace à tous les prisonniers politiques du monde entier.
Alors, il y a un acteur qui peut surprendre dans ton cinéma, même s'il était déjà là avant, c'est Ramzi Bedia. Et je précise bien Ramzi Bedia du duo comique Eric et Ramzi. Ça fait un moment qu'il est au cinéma, il a même eu plusieurs rôles sérieux. Mais c'est, disons que c'est chez toi qu'il est le plus sérieux, déjà dans Blade Number One... Il jouait un personnage à première vue affable, et puis d'un coup on le découvrait très violent. Moi c'est quelque chose, enfin c'est une scène qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Pourquoi Ramzi Bedia en rôle principal aujourd'hui dans Terminal Sud?
Pour être tout à fait clair, c'est parce que c'est un excellent acteur. C'est un acteur dont j'aime beaucoup les prestations et qui adore se réinventer pour chaque rôle. Et puis il a un sens de l'humour très aiguisé et qui à chaque fois me touche. Et enfin, c'est parce que nous, on appartient, enfin le type de cinéma que nous produisons, on appartient à une niche qui est précieuse,
qui est privilégié, mais qui est en même temps une niche où on se sent un peu enfermé, où on est plus ou moins dans un espace confidentiel. Le cinéma reste confidentiel. Et lorsque Ramzy a accepté immédiatement presque le rôle, j'ai senti la possibilité que notre public pouvait s'élargir et pouvait être confronté à ce type de cinéma et à toutes les interrogations, questionnements qui ne cessent de poser.
Toi, tu t'inscris dans un... Enfin, est-ce que tu cherches à t'inscrire dans une démarche d'un certain type de cinéma ou alors tu es plus dans une tactique guérilla, tu fais ton film sans penser au reste? Est-ce que le cinéma d'auteur, ça te touche? Est-ce que le terme populaire mais exigeant, ça te toucherait?
Ouais, populaire, exigeant, et surtout curieux, critique, qui reste en permanence aux aguets pour ne pas se laisser duper par toutes ces tentatives de conditionnement. Le cinéma est d'abord fait pour interpeller son époque, pour batailler avec, sinon il n'est pas conséquent. Donc c'est ça que nous, on est en train de mettre en perspective. Et heureusement qu'on n'est pas les seuls.
Quand tu dis nous, tu parles d'une famille de cinéma, Sarah Zinc, des acteurs qui te suivent.
Je parle de mes camarades techniciens ou artistiques, ouais. Je parle de nous parce que même si je devais dire je... On est toujours composé d'une multitude d'expériences qui sont souvent anonymes.
Pour revenir sur la question des acteurs, c'est le premier film, enfin le premier de tes films où tu ne joues pas, où tu n'apparais pas même. Sachant que tu as quand même tenu les rôles principaux dans plusieurs de tes films. Mmh. Pourquoi? C'est une lassitude? C'est l'envie d'avoir Ramzy? Puis je précise, les rôles pas toujours
faciles. Ouais.
Je pense au dernier Maquis notamment.
Judas
aussi. Mais...
Je crois que c'est parce que le moment était venu que d'être plus discret et d'économiser son énergie, d'éviter tout superflu. Toute suffisance inutile. Et ça m'a surtout permis de rester patient, sage, très concentré. Quand, dans les films précédents, quand je jouais, j'étais toujours à fleur de peau, très tendu, écorché vif. Là, en ne jouant pas, j'avais plus de recul, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. On trouve quand même avec des économies qui sont adaptées à notre écriture, mais qui nous obligent tout le temps, à chaque film, de vivre de véritables aventures, d'authentiques aventures. Et ça c'est ce qui transforme l'écriture scénaristique en cinéma. C'est l'étape, c'est vraiment l'étape du tournage. Si elle est vraiment une aventure où tu mets tout dedans, tu donnes le meilleur de toi-même et que tu es prêt à risquer ta peau, d'un seul coup tu es porté par une forme de vague euphorisante qui t'ouvre d'autres portes, d'autres horizons, d'autres rivages.
En général, tes films, c'est des films difficiles à tourner où justement tu arrives à trouver une sorte d'équilibre. D'envie générale pour avancer coûte que coûte, ou est-ce que c'est la galère, quoi?
Non, nous on réfléchit, on met vraiment tous nos doutes avant, pendant l'écriture et pendant la préparation, et une fois qu'on enclenche réellement le tournage, là il faut revenir avec le film quoi qu'il arrive, et c'est en cela que ça devient une véritable aventure. Parce que là, on s'engage à partir d'une intention inflexible qui est la mienne, qui est celle de l'auteur. Cette intention, elle finit par être partagée et communiquée à toute l'équipe. et même presque presque au pays, au paysage, et qui fait qu'ensuite c'est soulevé et que c'est porté par un désir de cinéma.
Pour revenir
à Claire, hein.
Ouais, c'est clair, c'est même très clair. Et d'ailleurs, je trouve que le film va vers cette simplicité, et même ce calme dont tu parlais, sans gâcher la fin du film. Mais il y a un vrai désir d'un ailleurs qui permette un peu de
épuré,
de se poser, de réfléchir.
Proche de la matière, proche des corps, proche de la chair, comme si on était constamment à la recherche de l'esprit dans la matière, justement. Et c'est peut-être ça qui nous caractérise, nous, en tant qu'espèce humaine. Je crois qu'il y a quelque chose en nous, peut-être, qui nous permet de nous confronter à toutes les terreurs et au côté le plus terrifiant qui soit de notre monde. Mais il s'agit de savoir tout simplement ce qu'on cultive en nous, le côté terreur ou le côté merveilleux.
On sent dans le personnage de Ramsey, non pas une tentation vers le côté terreur, mais il y a une vraie puissance corporelle. Déjà, on découvre que Ramsey, on le savait déjà, mais il est grand.
Il est super grand.
Il est grand. Épaules lourdes.
Ouais. Il s'est alourdi pour le film. Il a pris une patate. Il s'est épaissi. Sa voix est devenue même plus, tout en restant douce, est devenue plus grave, légèrement plus lourde. Et on n'a pas beaucoup parlé entre nous. On se retrouvait, on se disait les principales consignes et indications. Mais sinon, tout se faisait par le regard. Il y avait d'abord et avant tout une profonde et réelle sympathie et affection entre nous pour que les choses puissent couler de source. Et après, ça se passe, quoi. Après, chacun a sa responsabilité. Et lui, il a pris les siennes et puis il a carrément assuré.
C'est un film où il y a d'improvisation ou c'est très écrit?
Pour qu'il y ait d'improvisation, il faut que ça soit très écrit. Il faut que ce soit élaboré minutieusement, extrêmement précis. Et c'est ça qui te permet ensuite de t'échapper et de trouver justement de nouvelles perspectives. On laisse la caméra tourner, on aime bien être confronté à ce qui est imprévisible. On va chercher des décors réels, naturels, comme par exemple un marché. Et on s'y installe et on prend le temps. Et on ne sait pas ce qui peut se produire.
Toute la scène, donc la discussion entre les deux hommes avec le camion balai qui passe derrière, je ne sais pas si c'est prévu, mais dit comme ça, ça donne peut-être pas très envie, mais sur l'écran, avec le son, il y a quelque chose d'assez dingue, il y a une discussion entre deux où toute leur lutte se résume à quelques mots, et puis il y a un camion qui nettoie derrière, qui nettoie, puis il y a des détritus à l'infini.
Pour nous, il était important que de la séquence de marché arrive avec ces gros aspirateurs. Qui avale tout, qui avale tous les surplus du marché, jusqu'à la dernière tomate rouge venue d'Espagne, qui a fait des milliers de kilomètres, et se retrouvant perdu sur un trottoir de nuit. C'est ça qu'on voulait exprimer à travers ces camions. Et on savait qu'il fallait qu'on vienne après le marché pour avoir la chance d'avoir ces machines titanesques. Et après, on place nos acteurs. Sur un banc, il était là, il est super bien placé. C'est que du bonheur, c'est waouh, wow, tu vois, on l'avait pas prévu, j'avais pas repéré avant. Il y a un banc qui est là, et juste derrière, il y a les machines qui passent, il y a le camion qui est complètement désarticulé, et en montant son haillon, tout, il retrouve une certaine raideur. Tout ça, c'est pas prévu, tout ça, c'est apporté comme sur un gant de velours.
Non, mais j'aime beaucoup ça parce que peut-être un autre réalisateur dans notre contexte aurait fait un film où chaque élément a son poids très précis pour rentrer, pour compléter le puzzle du film. Et là, justement, dans Terminal Sud et dans tes autres films, il y a une sorte de flux qui passe, une sorte de liberté, plein de petites choses qu'on peut oublier une fois qu'on a vu le film et qui reviennent, en fait, qui paraissent assez évidentes au moment où on voit le film. Et ça crée vraiment une constellation de petits détails.
des détails qui se recherchent, des détails qui se confrontent et qui, comme tu l'as dit, restent dans un flot. Ces détails sont dans un courant on ne sait pas vers où il va aller, mais qui permet de considérer la vie comme un immense voyage.
Du film, j'ai dit que Ramzi Bedia était un docteur confronté à certaines pressions. Alors justement, dans le film, on voit qu'il n'est pas le seul. Il y a aussi la population qui est raquettée sur les routes. Il y a aussi un journal indépendant qui fait face...
Qui s'appelle Le Dernier Maquis.
Le Dernier Maquis, effectivement. Petite référence à ton troisième long métrage.
Spécial dédicace.
Il y a un danger qui est très contemporain, qui est un peu non identifié. On a d'une part la police, l'armée, on ne sait pas trop. Et de l'autre côté, on a autre chose, des terroristes, des islamistes.
On ne sait pas du tout. À aucun moment dans le film est évoqué des membres d'un État ou des milices religieuses. Ce que nous on voulait mettre en place, c'est un espace et un temps où tout se brouille, où tout se confond. C'est aujourd'hui, c'est le présent. C'est quand les dérives autoritaires se deviennent de plus en plus nombreuses. À ce moment-là, on n'arrive même plus à reconnaître les forces de l'ordre, des gangsters, des milices, de la gendarmerie. Et encore, on pourrait rajouter plein de choses. C'est des périodes où on essaie de distiller la peur en assassinant en premier lieu ceux qui pourraient porter une parole rationnelle, c'est-à-dire les intellectuels, les journalistes, les docteurs qui tiennent la barque malgré tout et qui sont confrontés à toutes les souffrances de la population.
Ramzi, au début du film, il arrive déjà fatigué en fait, il a déjà les épaules lourdes, il reçoit des menaces de mort, on ne sait pas trop pourquoi, à part le fait qu'il soit docteur, il s'est peut-être passé quelque chose avant, et lui, depuis son poste, son point d'observation, c'est-à-dire son travail, qui voit la population, qui a peur, qui se saoule.
Lui-même se saoule, il devient lourd parce qu'il porte toutes les douleurs et les souffrances de la population qui viennent témoigner des horreurs dont ils sont témoins. Et se retrouvant impuissant, il se réfugie dans l'alcool.
Il y a un élément que je trouve vraiment intéressant, qui fait peur, qui renvoie à l'idée de quotidienneté, c'est que chaque jour, Ramzi va au travail, va à l'hôpital, et il est fouillé par cette bande de flics.
Et on ne sait pas si c'est des flics.
Ils ont un uniforme, en tout cas.
Ils ont un uniforme, mais ça peut être encore une fois une milice, ça peut être les agents de sécurité de l'hôpital, ça peut être les forces de répression.
J'adore comment tu filmes ça, il y a des buissons derrière ou des arbres et c'est toujours à peu près le même angle et le lieu semble un peu coupé du reste, c'est vraiment un checkpoint quoi, il est obligatoire. Et je me suis même demandé si c'était pas une question d'économie, qu'il y a vraiment ce lieu qui est coincé dans, au sein du cadrage quoi, de l'image, mais du coup je trouve qu'il y a une vraie force dans ce lieu obligatoire, matin et soir. C'est ça qui est beau aussi, c'est que Ramzi le soir il est un peu plus, il sort du boulot et pareil, rebelote, on le fouille, on l'insulte.
Là où on a mis en place le barrage, c'était vraiment délibéré, c'était juste en dessous de l'hôpital. L'hôpital de Grasse, un hôpital de Grasse désaffecté qui a une architecture néocoloniale. Et on s'est dit qu'on pouvait le faire en contre-champ et avoir la magnificence de l'architecture. Et finalement, on a préféré le côté beaucoup plus réduit.
Ingrat.
Oui, ingrat.
Je voudrais revenir sur une expression que j'ai trouvée dans l'entretien que tu as fait avec les Cahiers du cinéma. Avec Jean-Philippe Tessé, vous parlez du monopole de la violence légitime, pardon. C'est vrai que dans ton film, effectivement, il y a une violence qui semble être qui est légitime pour chacun, pour celui qui l'exerce. C'est on agit de son bon droit, on tue à bout portant, on kidnappe.
Mais en principe, cette violence légitime, c'est une violence d'État. C'est réellement sa nature même. Ses raisons les plus profondes, les plus obscures. Quand tu enlèves tous les vernis, tout le maquillage, il reste quoi que la brutalité et la violence inouïe. Et pour défendre quoi? Si c'était pour défendre l'intérêt général, la rigueur ça se comprend, mais là c'est pour défendre simplement les intérêts d'une minorité qui nous pousse à l'impasse.
C'est-à-dire que ton film, il est quand même assez, je vais dire radical, mais réaliste en même temps. Quoi.
Qu'est-ce que tu appelles radical? Être radical, c'est simplement avoir une observation lucide du monde dans lequel nous sommes. On devrait tous être radicaux dans ce cas-là. Où va le monde? Pourquoi ces violences? Pourquoi ces dérives autoritaires un peu partout, dans toutes les régions? Si ce n'est pour défendre les intérêts d'une minorité qui nous pousse à bout.
Comme tu le dis dans l'entretien, pour l'instant, il est interdit de tirer à balles réelles sur le peuple, mais si demain on le fait, on trouvera toujours une excuse pour le justifier. Et puis ça continue comme ça, quoi.
Mais regarde, là, il y a quelques jours, il y a un étudiant qui s'est cramé vif, putain, devant la fac. Tu te rends compte un peu, on est en France, quoi. Et personne n'en parle, comme si c'était un fait divers ou une anecdote et qu'on vivait ça tous les jours. C'est quand même, ça veut dire que les rapports sociaux et les rapports économiques sont d'une violence exécrable pour arriver à ce stade-là. Non, tu crois pas?
Si, si. Et d'ailleurs, je me permets de faire le lien, parce que justement, ton film parle du monde entier, je pense. À Hong Kong, il y a quelques jours, un jeune s'est fait tirer dessus à balles réelles, pourtant.
Mais là, on est en France.
Et à une époque, ça aurait fait scandale, et maintenant. Bah,
mais à Hong Kong, il y a d'autres intérêts, des intérêts géopolitiques bien plus importants. Hong Kong, à savoir si elle appartient à la Chine ou pas, c'est un autre problème. Mais là, en France, un étudiant français qui se crame, qui se brûle, qui décide dans une action désespérée de mettre fin à ses jours d'une manière aussi infernale, aussi terrible, aussi horrible, waouh, c'est quand même révélateur d'une situation aujourd'hui en France
extrêmement préoccupante. Et ça passe comme une lettre à la poste, personne n'en parle. Je trouve que c'est un véritable signal d'alarme. Nous vivons vraiment une époque où on ne peut plus rester neutre.
En général, la tactique de l'État et des médias dans ce genre de cas, c'est de dire que ce jeune homme était fou, ou, en gros, déceler une faiblesse chez lui, de même que lorsqu'on ne retrouve pas le corps de Steve à Nantes, on prouve qu'une heure avant, il a envoyé un SMS où il était triste, donc suicide. Donc, c'est pas la faute des flics.
Mais qu'est-ce que révèle ce genre d'action désespérée, sinon une impuissance devant la précarité, la pauvreté de nos étudiants? C'est nos enfants, tu vois, c'est nos camarades. Ils poursuivent des études, prolongent leurs recherches et se retrouvent dans des situations économiques complètement absurdes. Qu'est-ce qu'on peut faire devant l'État, devant cette forme de répression galopante qui ne cesse de monter comme une vague déferlante? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le personnage principal du film dans Terminal Sud évoque deux possibilités. Soit il en meurt, soit il tape la fuite. Il y a peut-être une autre qui est celle tout simplement de s'organiser entre toutes les solitudes de la Terre.
C'est un peu le... J'ai l'impression que ton film donne un peu toutes les pistes. Toutes les possibilités sont énoncées, effectivement par personnage, mais aussi par ce qu'il traverse, lorsqu'il... On n'a pas parlé de la séquence de la torture, un gros moment du film, mais lorsqu'il s'isole avec cet homme, juste pour manger, discuter, se reposer, prendre l'air un peu, et ensuite il est rattrapé par on ne sait qui.
Il est rattrapé par la violence du système qui approuve pas que quelqu'un puisse s'émanciper et tenter d'être libre.
Quelque chose de parfois très simple, presque naturaliste, et puis des fois des lumières extrêmement travaillées. Alors j'ai un peu la réponse que j'ai lu l'entretien, notamment le dialogue entre Ramsey et sa compagne, mais c'est presque le Caravage, quoi. Il y a au niveau des ombres, il y a un truc assez même shakespearien, j'ai envie de dire. Tu crées des gros personnages, et le plan d'après, c'est des gens de tous les jours, quoi. Il y a un aller-retour, il y a une dialectique un peu de puissance comme ça.
Ça, c'est les décors qui nous permettent ensuite de choisir et sélectionner la lumière. On avait besoin d'avoir une cuisine et dans nos repérages, lorsque nous étions à Nîmes, nous devions repérer une cuisine qui pouvait ne pas être semblable à toutes les autres, mais qui donnait une perspective extérieure. Et lorsqu'on a trouvé cet appartement qui donnait vraiment une perspective vers le dehors, avec des bâtiments qui pourraient être de toutes les époques, on s'est dit c'est exactement ce qu'il nous faut. On aurait pu faire comme plein d'autres films, se contenter d'une cuisine basique, mais là l'idée c'était de faire de cette séquence et de ces plans quelque chose qui pourrait réellement ressembler à des tableaux. Et là, on a blindé la lumière à l'intérieur de l'appartement. Ça surchauffait et ça nous a permis d'avoir de porter notre attention en tant que spectateur aussi à ce qui se passe derrière les personnages. On peut déceler quelqu'un qui met de l'argent dans un horodateur, une voiture qui fait marche avant et ensuite une marche arrière. Et voilà, c'est un arrière-plan qui est en mouvement, qui est vivant.
Le son est très travaillé aussi, quelque chose d'assez réaliste, mais le fait qu'on se sente vraiment dans cette cuisine à cette heure-là, en début de soirée, au milieu de la nuit, rend encore plus effrayant les scènes qui vont s'y passer, notamment un voisin qui se fait kidnapper,
oui,
par on ne sait qui, et Ramzy qui a sa fenêtre, qui peut rien faire, quoi, qui est en train de se saouler, qui a déjà assez à faire la journée pour...
Ouais, et le docteur qui finit par... terminer sa bouteille de whisky.
C'est un film qui prend le temps, en fait. Mais sans être dans la lenteur, mais qui va aller chercher une sorte de matérialité, des choses. Il y a une scène d'enterrement aussi.
Une densité, qui va chercher de la matière. Tu viens de parler de lumière et de son. Je tenais juste à faire la remarque que Irina Lubstansky est la chef opératrice avec laquelle je travaille depuis très longtemps, depuis Dernier Maquis, depuis 2008. Et Nicolas Javel, qui est le monteur son et le mixeur, est là depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire depuis Wesh Wesh. Donc, aussi bien avec Irina qu'avec Nicolas, qui vient souvent sur le plateau, on est là, on s'interroge et ça se voit à l'écran. Pour ce qui concerne les ambiances et les rumeurs des villes, par exemple, avec Nicolas, on est parti sélectionner les bruits, les klaxons des villes comme Le Caire, Beyrouth, Rabat, Marseille.
Ça m'a vachement fait penser à Marseille, qui est une ville que je connais un peu. Je m'y sentais, quoi. Ces bâtiments assez hauts, mais pas trop.
Oui.
Peut-être même des hauts plafonds, et puis une rue qui déserte, si on fait du premier coup, il y a des bruits, quoi. Des éclats.
C'était à Nîmes. On a tourné 3 semaines à Nîmes, dans un quartier populaire, considéré comme dangereux, alors que nous avons été reçus avec une hospitalité remarquable. Ensuite, on a tourné à Istres et à Miramas, et qui est le cœur de la Provence, et enfin Grasse. Et à chaque fois, on a été soutenu par les régions où nous avons obtenu et gagné des commissions pour pouvoir avoir les subventions nécessaires et réaliser le film.
Le sujet ne les a pas brusqués ou...
Tu sais, tu présentes ton dossier, t'es sélectionné, ensuite tu passes à une commission, devant une commission. Là, si tu la remportes, ben bravo, c'est tant mieux. Mais c'est jamais gagné d'avance. Il est certainement probable que les personnes qui étaient dans ces différentes commissions, que ce soit la région Occitanie ou la région PACA, il y avait des gens qui aimaient vraiment le cinéma. Et je leur en suis très reconnaissant, ainsi qu'aux régions, qu'au CNC. On ne pourrait pas faire ce type de cinéma si la France ne possédait pas tous ces outils, toutes ces armes pour défendre le cinéma indépendant. Que ce soit le CNC, bien entendu, qui est une institution remarquable, encore une fois, mais qui a besoin d'être réformée, ou bien que ce soit les régions qui sont là pour financer la création cinématographique.
On parlait du son à l'instant, il y a des chansons, des musiques dans le film qui participent à Détérioranalysé.
Oui.
J'ai du mal avec les longs mots. Et il y a des comptines.
Faut t'en dispenser.
Suédoises.
Ouais.
Et puis il y a du Bizet. Est-ce que tu peux nous en parler? D'ailleurs, on va les écouter dans l'émission.
Limuli, muli, ma gueule, lo solen schina. Över bergena blå, över kullorna små, som i skogen ska gå om sommaren. Limuli, muli, ma gud, låt solen skina över bergena blå, över kullorna små, som i skogen skall gå om sommaren. Limuli, muli, ma gud, låt solen skina över bergena blå, kullorna små, som i skogen skall gå om sommaren.
On a choisi encore une fois de la musique qui vient, qui surgit réellement de l'image, des plans, en faisant appel à deux berceuses suédoises. Et si on a pris des berceuses suédoises, c'était pour élargir encore le champ, et ne pas se contenter à un univers méditerranéen, pardon, mais à toutes les régions du monde. Et enfin, Bizet, les pêcheurs de perles, c'est interprété par Slimane Dazy au moment du recueillement, juste après l'enterrement. Il le fait avec une telle douceur, une telle profondeur et une telle sincérité que ce n'est vraiment très, très, enfin, pour ce qui me concerne, très touchant.
Slimane Dazy, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille de ton cinéma?
Non, c'est la première fois qu'il vient dans notre aventure. Il a trouvé ça dur, exigeant, et pour chacun d'entre nous, ça restera une expérience mémorable. Il était super content et super fier.
Et Ramzy, j'en parlais tout à l'heure, il y a toute une scène de torture quasiment en plan séquence. En tout cas, il y a un très long plan au milieu de cette scène. Ça paraît. C'est très étonnant et ça donne une idée d'une scène assez dure à tourner, assez difficile à faire.
C'est une séquence qui est inspirée en réalité de tous les rapports entre l'Algérie et la France depuis le début des campagnes coloniales, de ses exactions, de la brutalité de la guerre d'indépendance et enfin de l'horreur de cette décennie noire en Algérie dans les années 90. Pour te dire quoi, ensuite, c'était quoi ta question?
Ma question, c'était sur le jeu, je dirais, de Ramzy pour cette séquence de torture qui est assez violente, on va dire, qui s'épargne peu de choses.
On découvre la prison. C'est une prison désaffectée à Grasse qui aujourd'hui sert de musée du parfum. Et on va dans les souterrains, on visite toutes les cellules et il y en a une qui nous accroche. Et celle qui nous accroche le plus, c'est celle où il y a un graffiti où est représenté l'ange de la liberté avec un gros cœur rouge. Et voilà, on s'est dit stop, on arrête, c'est ici qu'on doit faire la séquence. Et après, on a utilisé une seule lumière pour nos personnages qui se retrouvent très proches l'un de l'autre.
à signaler que le chef torsionnaire est joué par Régis Laroche, qui est un très grand comédien de théâtre et qui nous a fait le bonheur de participer encore cette fois-ci à cette aventure. Il était déjà là dans l'histoire du Judas, il faisait Ponce Pilate.
Il y a une scène qui m'avait vraiment étonné, et même quand je l'ai revue, c'est Ramzy qui a rendez-vous avec le directeur d'hôpital, joué par Jacques Nolot. Et il y a une sorte de flottement. Jacques Nolot lui fait des reproches, et il n'a même pas le temps de se défendre. Ramzy, que les flics sont déjà là, quoi. Et là, ça fait peur. Je dirais, ça, c'est la violence qui attend, qui est tapis, quoi, qui n'arrive pas au bon moment. Elle arrive plus vite qu'on ne le croit. Il n'attend rien faire. Il est embarqué.
C'est des périodes où tout peut bousculer, être bousculé très très rapidement à une vitesse assez hallucinante, où la population prend peur. Là, on a le directeur de l'hôpital qui se retrouve à être un délateur, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme pendant la collaboration. Donc tu vois, on joue vraiment avec plein d'époques où... Des périodes historiques qui étaient très sensibles, où chacun d'entre nous avait le choix de choisir entre la collaboration ou la résistance.
Là, c'est oui, vraiment, il y a une vraie violence, mais un peu...
Ça t'a pas rappelé un peu ça? T'as vu un peu sa dégaine, sa chemise, ses bretelles,
son attitude, il a vraiment la tronche d'un collabo de la Deuxième Guerre mondiale.
C'est marrant d'avoir pris Nolo pour ça.
Je pense beaucoup à Jacques qui j'espère nous écoutera dans cette émission, et j'aimerais tellement tourner avec lui, avec un personnage principal qui serait celui d'un retraité qui glisse entre les murs, qui se fait le plus discret possible et qui, se sachant malade, va offrir tous ses biens à ses voisins dans un quartier populaire. Et qui vont le regarder de façon suspecte, ils vont le trouver tellement chelou qu'ils vont finir par le lyncher. Donc, encore une chronique ordinaire de la violence.
Bah, pour ouvrir une petite parenthèse, Jacques Nolo réalise des films, il en a fait un très beau sur la vieillesse, sa propre vieillesse, Avant que j'oublie, et qui est vraiment qui est un chef-d'œuvre. Tous ses films sont beaux, mais c'est le plus beau, je trouve, qui est d'une grande violence aussi. Le rapport au corps, le rapport au monde social. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Une question que j'aime bien poser à tous les cinéastes, et notamment les cinéastes qui sont des vrais cinéastes, qui ont vraiment une approche du cinéma, pas théorisée, mais comme un art particulier, pas juste comme un moyen de raconter des histoires, c'est peut-être tes influences, que je sais que tu n'avais rien tourné avant Wesh Wesh. Qu'est-ce qui t'a inspiré, est-ce que tu es cinéphile ou pas?
Je ne suis pas vraiment un grand cinéphile. J'ai dévoré le cinéma grâce à des émissions de télévision qui faisaient vraiment l'honneur de la télévision française, comme par exemple le Ciné Club, qui passait juste après Apostrophe, et le Cinéma de Minuit, par exemple. Non, pas cinéphile. Qu'est-ce qui a fait mon désir de cinéma? La terreur. J'ai été terrifié par un film que j'ai vu quand j'avais 5 ans. J'ai eu la chance d'avoir des grands frères qui étaient aussi fadas de cinéma et qui regardaient donc le ciné-club. Et moi, j'étais gamin, j'avais 5 ans. Donc, je me glissais dans le couloir, j'ouvrais légèrement la porte et puis allongé avec sur la tête appuyée sur mon coude, je regardais. J'ai regardé Murnau, j'ai regardé son film d'épouvante qui s'appelle Nosferatu, ça m'a traumatisé pour la vie. Donc il a fallu à un moment donné que j'exorcise cette terreur, et puis aujourd'hui je fais du cinéma.
Et notamment un film d'horreur. D'horreur contemporaine.
Mais c'est Terminal Sud.
Et peut-être une dernière question, le titre?
Terminal Sud, c'est le terminal, c'est là où arrivent toutes les matières premières qu'on exploite un peu partout dans le monde, et particulièrement dans le sud, et ce dont on est capable de faire jusqu'à l'horreur, hein, pour pouvoir le privilège et la mainmise. C'est ça, Terminal Sud.
Merci Rabat. Je rappelle que ton film sort le 21, c'est ça?
C'était avec plaisir. Il sort le 20, mercredi 20 novembre.
Le 20, pardon.
Merci à toi.
Merci. Puis on espère voir la suite. Tu continues régulièrement à faire des films. Là, 6 films, 6 grands films, c'est super. Faut continuer.
J'espère que j'aurai la chance de poursuivre l'aventure. C'est pas facile, mais c'est tellement. C'est une chance incroyable. Ça permet réellement de franchir un pas de plus vers la liberté et de nous émanciper de plein de contingences. Merci à toi.
Merci à toi, Rava.
Voilà, c'était donc un entretien avec Rabah Merzaimech à l'occasion de la sortie mercredi 20 novembre de Terminal Sud, son sixième long métrage. Donc je le redis, c'est vraiment le film à voir en ce moment, et croyez-en quelqu'un qui ne fait pas toujours attention à l'actualité cinéma, voilà, s'il y a un film à voir maintenant et à soutenir en salle, c'est le film de Rabah. Donc je le redis aussi, toutes les informations concernant les musiques seront mises en ligne sur la page internet d'Aligre, sur la page podcast de l'émission du jour. Ce sont donc des musiques qui viennent des films de Rabah, et on en a un peu parlé dans l'entretien, mais à un moment de Terminal Sud, il y a une reprise, je pourrais dire, de Bizet. Et donc pour conclure, et sur les conseils de Rabah, nous allons écouter une autre reprise de Bizet, et en l'occurrence cette fois c'est David Gilmour, bon, plus connu comme étant le second chanteur de Pink Floyd. Donc David Gilmour qui reprend, je crois, Entendre Encore. Voilà, très bonne journée et à la semaine prochaine pour Vivre le Cinéma, et à dans un mois pour Beau Temps mais Orageux. Merci.
Je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et sonore comme un chant de rame. Chanteresse divine, ravissement au souvenir charmant, folie presse des étoiles.